Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance.
Il craque le marché de l'épargne salariale. Benjamin Pedrini, CEO et cofondateur d'Epsor à Paris.
Les salariés des entreprises plus grandes qui bénéficiaient d'épargne salariale, bien souvent, avaient accès à des solutions en épargne salariale qui étaient, pour ainsi dire, très peu sexy.
Après une dizaine d'années à la Société Générale, notamment dans le département de l'Inspection Générale, Benjamin est démangé par l'entrepreneuriat et fonde Epsor avec son associé et ancien collègue Julien. Il décide de lancer une activité dans le business de l'épargne salariale, typiquement les primes d'intéressement ou la participation aux bénéfices. La loi Pacte, en France, simplifie le mécanisme d'épargne salariale grâce à la mise en œuvre du plan d'épargne retraite. Force est de constater qu'il existe un très gros différentiel d'équipement entre les grosses et les petites et moyennes entreprises en France à l'heure actuelle. Les trois maîtres mots d'Epsor, le conseil, la simplicité et la transparence. Leurs outils et plateformes permettent aux entreprises et à leurs salariés d'accéder à une nouvelle génération d'épargne salariale. Grâce à deux levées de fonds, avec Partech et Blackfin, Epsor craque véritablement le marché historique en place et rebat les cartes. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Benjamin.
Bonjour Solène.
Merci de ton accueil chez Epsor à Paris. Je suis ravie de passer cette heure avec toi. Avant de commencer, j'aimerais dire un petit mot, une spéciale dédicace à Laure Lemaignan, grâce à laquelle on se voit aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter à nos auditeurs ?
Oui, donc je suis Benjamin Pedrini. Tu remercies Laure. Laure, je l'ai rencontrée à la Société Générale. En fait, moi, j'ai passé à peu près une dizaine d'années à la Société Générale avant de quitter ce groupe pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale, justement, et de lancer Epsor en 2017.
Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais chez SocGen ?
Chez SocGen, en fait, je suis rentré à l'Inspection Générale. C'est un corps d'audit et de conseil en interne à l'ASG qui couvre à peu près toutes les activités du groupe. Donc j'ai passé 6-7 ans sur ce job où on évolue d'abord en tant que junior, puis en tant que senior, un peu comme dans un cabinet de conseil, partir en mission en France et surtout à l'autre bout du monde, à voyager dans des pays aussi exotiques que plus communs, enfin voilà, en passant de New York à Singapour, au Ghana ou à la Géorgie. Donc vraiment beaucoup de pays sur des sujets, des thématiques complètement différentes, mais toujours ayant trait au secteur financier, aux activités d'un groupe bancaire comme Société Générale, ce qui m'a permis pendant cette dizaine d'années de découvrir un petit peu toutes les activités bancaires, de la distribution, de la gestion d'actifs, des activités de marché, vraiment extrêmement variées. Et à l'issue de ça, j'ai basculé dans quelque chose d'un peu différent. J'avais passé pas mal de missions en Suisse, notamment dans la banque privée. Et donc, du coup, j'ai pris la direction des équipes conformité de la banque privée de Société Générale à une époque où, justement, la conformité devenait un enjeu extrêmement important, extrêmement structurant dans cet univers-là.
C'était en Suisse ou ici ?
C'était en France. C'était en France, dans un contexte, voilà, comme je te disais, où même en France, en fait, les activités de banque privée devenaient de plus en plus régulées, contrôlées, et où les enjeux de compliance devenaient extrêmement, extrêmement importants et où il fallait un peu structurer tout
je
ça.
Je connais bien.
tu connais bien pour être issu de ce secteur.
Exactement, oui. Alors du coup, tu étais là dans ton beau fauteuil, responsable conformité, c'est plutôt prestigieux comme job. Pourquoi tu as changé ? Quel a été le trigger ?
Ouais, le trigger, ça a été effectivement une envie d'entreprendre que j'avais depuis pas mal de temps. Je dirais pas une rencontre, mais le fait de trouver la personne avec qui le faire aussi, c'est-à-dire que entreprendre, j'avais envie de le faire. Je me voyais pas forcément le faire seul, et donc Julien, aujourd'hui mon associé, est quelqu'un avec qui pendant une bonne année, on a beaucoup parlé de ces sujets-là.
C'était ton collègue ?
On était, alors c'était, il était à l'inspection de la SG aussi. On a très peu travaillé ensemble quand on était à la SG, mais on est assez devenu, enfin on est devenu amis assez rapidement. Et donc du coup c'était un moment où lui aussi était un carrefour, on va dire, de vie où il devait évoluer, chercher autre chose au moment de la naissance de son deuxième enfant, Et donc on a pas mal, voilà. On a pas mal discuté tous les deux sur ces sujets-là d'entreprendre. Lui était en congé sabbatique à ce moment-là et l'épargne salariale est venue un peu par hasard finalement sur le tapis et finalement c'est la conjoncture de ça, à la fois comme je disais, la volonté d'entreprendre d'un côté, le fait de savoir avec qui j'allais le faire et d'avoir envie de le faire avec cette personne-là, et le fait d'avoir une idée qui finalement assez rapidement se révélait être intéressante, être un bon business case. La conjoncture de tout ça m'a fait prendre la décision de faire le saut et de me lancer.
Et du coup, vous avez quitté ensemble pour constituer Absor ? Alors, vous avez fait l'un après l'autre. Souvent, c'est comme ça que ça se passe.
Bah, au final, on va dire qu'on s'est libéré de nos contraintes contractuelles à peu près au même moment.
D'accord.
Mais lui avait quitté avant, il était en congé sabbatique.
Okay.
Et là où moi j'étais en poste. Donc du coup, moi j'ai eu toute une phase un peu
entre deux.
Entre deux, où j'étais un peu schizophrène et où je réfléchissais à ces sujets-là le soir, le week-end, où je posais des vacances pour travailler sur le projet et où on se retrouvait dans ces moments-là pour avancer jusqu'à ce que je quitte définitivement Société Générale à l'automne 2017, et où là on s'est mis tous les deux vraiment à temps plein sur le sujet et où on a créé la société en octobre 2017 justement.
Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Alors, on a des auditeurs, comme je te le disais quand on a préparé l'entretien, qui se répartissent un petit peu partout en Europe, en France bien sûr, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, en Espagne et partout ailleurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que l'épargne salariale ? Parce qu'il y a des pays où c'est plus connu que d'autres. Mm-hmm. Moi, je connais certains aspects comme l'intéressement. Mm-hmm. Mais je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer ce que c'est, ce que ça recouvre, et puis peut-être avoir une sorte de panorama européen et puis surtout français, puisque c'est le cœur de votre business ?
Oui. Alors, l'épargne salariale, effectivement, comme tu dis, c'est très présent en France. Ça existe aussi dans d'autres pays sous des formats qui peuvent être assez différents. En fait, c'est des mécanismes qui vont être mis en place par l'entreprise pour inciter leurs collaborateurs à épargner, tout en les associant aux résultats de l'entreprise. Donc, effectivement, tu parlais d'intéressement. En France, notamment, l'épargne salariale, on va souvent considérer qu'il y a deux types de mécanismes. Le mécanisme de versement de primes, typiquement des primes d'intéressement. L'intéressement, c'est quoi ? C'est une entreprise qui va chercher à associer ses collaborateurs à l'atteinte d'un objectif et du coup qui va leur verser une prime si ces objectifs sont atteints. On a également ce qu'on appelle la participation en France, et ça, ces mécanismes d'avantage de profit sharing, ça existe aussi dans d'autres pays européens.
C'est une participation au bénéfice.
Exactement, c'est une participation au bénéfice. Donc là où l'intéressement, en fait, c'est vraiment une prime que vont toucher les collaborateurs en contrepartie de l'atteinte d'un objectif qui sera fixé par l'entreprise ou par un accord d'entreprise avec les salariés. La participation, c'est vraiment uniquement orienté sur les bénéfices. C'est une formule, en tout cas en France, qui est légale, qui définit ça. Et si l'entreprise fait des bénéfices, alors il y en a une partie qui est reversée aux collaborateurs. Et donc, en fait, face à ces mécanismes de prime, l'épargne salariale, c'est des enveloppes d'épargne qui sont fiscalement intéressantes pour aller justement épargner ces primes, soit dans une perspective moyen terme, soit dans une perspective un peu plus long terme. Donc en France, pour les auditeurs français qui nous écoutent, on connaît les PE, les plans d'épargne entreprise, les PERCO, qui aujourd'hui, depuis la loi Pacte, s'appelle...
Perco, c'est plan d'épargne pour la retraite collectif, c'est ça ?
Exactement. Mais okay. Ça, du coup, c'est aujourd'hui déjà un ancêtre, j'ai envie de dire, parce que la loi Pacte, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais a transformé ce produit en un produit plus simple, justement, qui s'appelle PER, le plan d'épargne retraite.
D'accord. Et
donc, du coup, aujourd'hui, chez nous, chez Epsor, on ne commercialise plus que des PER, on ne commercialise plus des PERCO. Certains acteurs ont encore des vieux PERCO. Disons que l'idée du législateur français là-dessus, c'était vraiment de simplifier. En France, il existait différents produits d'épargne retraite. Et donc, du coup, l'idée du législateur, c'est de simplifier. En France, il existait donc les PERCO, les articles 83, les PERP, les Madelin. Enfin, il y avait beaucoup de produits en épargne retraite. Et aujourd'hui, on existe qu'un seul qui s'appelle le PER, plan d'épargne retraite. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on commercialise justement auprès des entreprises. Et donc c'est ce deuxième plan d'épargne qui existe.
Et quand les sociétés qui mettent en place ces systèmes, est-ce qu'il y a des tailles minimales, c'est-à-dire de nombre d'employés minimum, ou finalement n'importe quel type d'entreprise, même avec deux salariés, peut mettre en place ce genre de solution ?
Alors, ce genre de solution, effectivement, ça va vraiment dépendre, encore une fois, de la législation des différents pays. Il y a des pays où c'est obligatoire, il y a des pays où ça ne l'est pas. En France, typiquement, il y a une seule chose qui est obligatoire, c'est de mettre en place de la participation quand on est une entreprise de plus de 50 salariés. En revanche, sur l'ensemble des mécanismes que je viens d'évoquer, rien d'autre n'est obligatoire, et rien n'est obligatoire dans les entreprises qui sont plus petites. Pour autant, c'est quand même possible de mettre ces mécanismes-là en place quand on est une entreprise de 2 salariés, quand on est une entreprise de 5 salariés. C'est tout à fait possible. Je prends notre exemple, hein, mais chez Epsor, aujourd'hui, on est un peu plus d'une cinquantaine de collaborateurs, mais on a connu une phase de croissance assez rapide. Et dès le départ, on a fait le choix de mettre en place chez nous, pour nos collaborateurs, un accord d'intéressement et des plans d'épargne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les collaborateurs d'Epsor touchent de façon trimestrielle une prime d'intéressement qu'ils font le choix soit d'épargner sur leur plan d'épargne, soit de percevoir directement.
Et alors les pratiques, on parle plutôt donc de la France, mais qu'est-ce que vous constatez au niveau national ? Est-ce qu'il y a une grosse proportion de sociétés qui mettent en place ce type d'outils ? Ça reste encore minime ?
Ça fait partie des raisons effectivement pour lesquelles avec Julien on s'est lancé à l'époque. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on s'est lancé sur ce marché-là, mais une de ces raisons, c'était un gros différentiel d'équipement entre des petites structures et des grosses structures. Disons qu'en France aujourd'hui, il y a plus de 90% des grandes entreprises qui mettent en place des mécanismes.
Grandes entreprises, c'est tu entends quoi ?
Grandes entreprises, j'entends entreprises au-delà de 250 salariés.
D'accord.
C'est-à-dire que on va mettre dedans les ETI, les établissements de taille intermédiaire, et les grands corporates. Et sur cette frange-là d'entreprises, on a plus de 90% des entreprises qui font bénéficier leurs collaborateurs de systèmes d'épargne salariale, que ce soit des primes d'intéressement de participation ou des plans d'épargne. Sur les plus petites entreprises, donc comme je disais, les entreprises de moins de 250 salariés, on est sur des taux d'équipement de l'ordre de 15%. Donc il y a un vrai différentiel d'équipement. C'est quelque chose sur lequel justement le législateur aussi est venu.
Alors que le tissu économique français est principalement sur ces sociétés-là.
Composé de sociétés un peu plus petites. Et donc du coup, là-dessus, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place à partir de 2019. Nous, ça a été un vrai booster pour nous. On ne l'avait pas forcément en tête. Et donc, on est arrivé au bon moment, on va dire, sur ce marché-là. Mais du coup, il y a eu des mécanismes qui incitatifs pour les entreprises de moins de 250 salariés dans la mise en place de ce type de solution.
Des incitations fiscales.
Aujourd'hui, en fait, une entreprise de 200 collaborateurs qui va verser une prime d'intéressement à un de ses salariés, elle ne va payer aucune charge dessus, aucune charge patronale, il n'y aura aucune charge salariale derrière, et le salarié qui va faire le choix d'épargner cette prime ne payera pas d'impôt sur le revenu non plus dessus. Donc finalement, on est sur un mécanisme qui fiscalement est extrêmement avantageux et qui fait qu'une entreprise qui va débourser 1000 euros pour un collaborateur permettra à son collaborateur d'avoir 1000 euros dans la poche in fine. Et ça, c'est un vrai levier qui est intéressant pour les entreprises, sachant que pour les entreprises de taille plus importante, il y a quand même des incitations fiscales qui existent. Mmh. On n'est pas sur, on n'est pas du tout sur la même fiscalité que la fiscalité du salaire. On est sur une fiscalité qui est quand même plus allégée sur ces primes-là.
Ok, donc ça, tout a été mis en place. Enfin voilà, le tapis rouge se met devant vous. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous avez quelle est votre proposition de valeur? Qu'est-ce que vous mettez en place qui n'existait pas avant, qui maintenant peut se faire par l'intermédiaire d'Epsor? C'est quoi votre proposition de valeur?
Oui. Sur la proposition de valeur, en fait, je te le disais juste avant, on est parti de... J'évoquais le constat de ce différentiel d'équipement entre les petites structures et les grandes structures. Mais en fait, sur le marché de l'épargne salariale, on avait plusieurs constats. On avait à la fois celui-là, mais on avait aussi celui qui était de dire que les salariés des entreprises plus grandes qui bénéficiaient d'épargne salariale, bien souvent, avaient accès à des solutions en épargne salariale qui étaient, pour ainsi dire, très peu sexy. Que ce soit en termes de...
Bah, y a plus... Visibilité, transparence peut-être.
Alors, transparence sur les frais, ouais. Support d'épargne sur lesquels investir, et ergonomie des outils, simplicité d'utilisation des outils. Mmh. Je suis vraiment sur ces trois angles-là, et aujourd'hui, c'est vraiment les trois angles, nous, dans notre proposition de valeur.
Tu peux répéter les outils, pardon.
Non, je disais simplicité dans l'utilisation, et donc du coup, ergonomie des outils, accompagnement, pédagogie autour de ces sujets d'épargne pour vraiment permettre à des collaborateurs d'entreprise qui n'écoutent peut-être pas ton podcast et qui ne sont pas spécialisés en finance de comprendre de quoi on leur parle, en fait, quand on leur demande d'aller investir une prime sur un fonds qui s'appelle, qui a un nom généralement qui leur paraît être du chinois. Donc vraiment, voilà, ce besoin d'apporter de la pédagogie et du conseil, on y reviendra, mais nous, c'est quelque chose qu'on apporte et qui n'existait pas sur le marché. De la transparence sur les frais. L'épargne salariale, il faut savoir qu'on est sur quelque chose qui est exclu, la directive MIF, donc il n'y a aucune exigence...
MIFID,
qui exclut la directive MIFID initiale et de la directive MIFID 2, donc il n'y a aucune exigence de transparence sur les frais en épargne salariale. Et donc, bien souvent, les acteurs ont commercialisé, les acteurs traditionnels ont commercialisé des fonds en épargne salariale qui étaient des fonds assez chargés en frais, en créant des structures dédiées à l'épargne salariale, des FCPE dédiées à l'épargne salariale,
donc des fonds communs de placement
d'entreprise, ouais, qui étaient en fait des fonds...
Des black box.
Bah, qui étaient des espèces de masters avec des feeders à l'intérieur.
Master fund, je traduis.
Exactement.
Hein. master fund et feeder fund.
Je te laisse
c'est des structures de fonds. Voilà,
je te laisse faire la traduction. Mais tout ça pour dire que c'est des structures de fonds qui amenaient un empilement des couches de frais, ouais, en fait, pour les bénéficiaires finaux. C'est-à-dire qu'on a un fonds nourricier qui va avoir ses propres frais de gestion, et on crée un master fund qu'on met au-dessus, et
c'est des couches de frais,
et c'est celui-là qu'on va distribuer en épargne salariale, sur lequel on va mettre aussi des frais de gestion, et en fait on va extérioriser à l'épargnant final uniquement la couche de frais qu'on trouve sur le master. On va pas lui dire qu'à l'intérieur il y a d'autres choses. Et donc du coup il y avait un vrai
problème. Du coup tu rognes toute la performance qui est générée.
Exactement,
dans ton
fond. Exactement, exactement. Ouais. Nous on propose dans notre proposition de valeur vraiment des fonds purs. Une architecture ouverte, ce qui...
Alors l'architecture ouverte, je traduis, c'est le fait d'aller chercher des fonds qui sont gérés par différentes maisons de gestion. Hein.
Exactement, exactement. Le marché de l'épargne salariale en France est à la main de gros assureurs et de gros banquiers qui généralement... dans leur solution, distribuent de l'asset management maison.
Bien sûr.
Nous, étant indépendants, en fait, on a fait le choix justement d'avoir une politique en architecture ouverte. On a chez nous un directeur des investissements qui joue ce rôle justement de screening des fonds qui sont éligibles à l'épargne salariale et qui fait de la sélection pour créer les gammes qu'on met à disposition de nos épargnants. Et donc, en fait, on travaille avec des asset managers qui sont... reconnus pour leur expertise, là où généralement les asset managers des banques ou des assurances ne sont pas forcément experts sur la gestion obligataire, experts sur la gestion actions internationales, experts sur telle ou telle typologie de gestion.
Ok, d'accord. Mais du coup, pour faire l'activité que vous faites, est-ce que vous avez besoin d'un agrément particulier de la part du régulateur ?
Alors aujourd'hui, on a, nous, un agrément qui est celui d'intermédiaire en opération de banque et en opération d'assurance. On est également conseiller en investissement financier. Mmh. Et par ailleurs, on s'appuie sur un agrément qui est un peu plus lourd, qui est l'agrément de teneur de compte en épargne salariale. Mmh. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a créé notre solution en partenariat avec Société Générale, qui joue le rôle de teneur de compte. D'accord. Sur nos plans d'épargne.
Ok. Ok, donc ça veut dire que actuellement, donc vous targetez vos TPE PME, voilà. Qui...
Pas seulement en fait. Hein, je te reprends là-dessus, mais effectivement, à la fois on target des TPE PME, mais aussi et surtout on target des entreprises plus importantes.
D'accord.
Car sur les constats que je t'évoquais, il y a effectivement ce côté un peu différentiel d'équipement entre les petites et les grandes. Et donc, oui. Du coup, nous, on va équiper des petites entreprises qui n'ont pas forcément de dispositifs. Et donc, on a développé une solution simple et facile à mettre en place pour des petites structures.
Oui.
Mais pour autant, toute la proposition de valeur qu'on a développée à destination des salariés, et donc ce que je te disais juste avant sur la simplicité d'utilisation, oui. Et le conseil sur la transparence sur les frais, sur la performance de notre gamme en architecture ouverte, toute cette proposition de valeur-là, elle a un intérêt extrêmement important pour les salariés d'entreprises plus grosses. Et donc, oui, c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on arrive à séduire des entreprises de taille nettement plus importante et des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs.
Ouais.
Et c'est vraiment voilà, aujourd'hui, nous, notre force commerciale target vraiment aussi bien des grosses entreprises que des petites.
Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors du coup, si demain, une société veut travailler avec vous, elle va avoir accès donc, à un outil qui est accessible à ses salariés, qui donne des reporting, de la transparence, etc. Mais est-ce que tu peux peut-être nous reprendre toute la chaîne de valeur pour voir finalement quel va être le produit final qui va être souscrit par l'entreprise et qu'est-ce qui va être finalement à disposition des salariés. Et ce qui m'intéresserait aussi que tu creuses, c'est la partie investissement derrière, parce que tu parlais d'open architecture, voir comment les fonds sont récoltés et comment c'est placé et toutes les décisions éventuellement de gestion, d'allocation, etc. Est-ce que tu peux peut-être creuser davantage à ce niveau-là ?
Oui, aucun problème. Sur ce qu'on propose à l'entreprise, en fait, aujourd'hui, nous, c'est pas seulement justement l'accès à des reporting ou à une solution en ligne, c'est vraiment une solution qui va remplacer son prestataire actuel en matière d'épargne salariale. Donc on a développé nos propres plateformes et nos propres outils à destination de l'entreprise et de ses salariés.
Parce qu'actuellement, c'est plutôt fait en interne. Comment ça se passe actuellement ?
En fait, aujourd'hui...
De manière traditionnelle, on va dire.
Alors, de manière traditionnelle, on est sur un sujet qui est porté par les RH dans les entreprises, okay. Généralement, et qui vont sélectionner un acteur. Aujourd'hui, sur le marché, les leaders en épargne salariale, en France en tout cas, mais qui sont présents aussi au niveau européen, sont Amundi, sont Natixis. Donc, c'est vraiment en France, en tout cas, les deux gros leaders sur l'épargne salariale. Et donc, le RH va sélectionner un prestataire de ce type-là et ensuite aura un accès entreprise sur un espace Amundi. Ses salariés auront un accès et ils iront gérer leur épargne à ce niveau-là. Mmh. Les primes d'intéressement ou de participation qui pourraient être versées seront en fait versées par l'entreprise et le prestataire, donc en l'occurrence Amundi que j'ai cité juste avant, va aller interroger les salariés des entreprises pour savoir quels sont les choix de placement qu'ils souhaitent faire. Mmh. Ils vont leur envoyer un courrier en leur disant il faut que vous répondiez sous 15 jours pour faire votre choix de placement. Mmh. Vous avez accès à ces quelques supports d'épargne sans plus d'éléments autour. Nous, aujourd'hui, quand je dis on vient remplacer les prestataires existants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui nous confie son épargne salariale, vraiment, on remplace un Amundi, on remplace un Natixis, on vient vraiment apporter une solution complète et donc à la fois une solution pour le RH de l'entreprise, avec donc un accès à une plateforme sur laquelle il peut piloter son dispositif au sein de son entreprise, choisir le moment où il va verser ses primes, etc. Mais surtout, un accès à une plateforme pour les salariés de l'entreprise et à une plateforme sur laquelle, justement, il y a de la pédagogie, une plateforme sur laquelle on remet vraiment l'épargnant, l'utilisateur au centre, et donc on s'intéresse à lui, on s'intéresse à ses projets de vie, aux raisons pour lesquelles il épargne, et où on a un robot advisor qui va du coup apporter du conseil sur les choix d'allocation qui pourront être faits en fonction des profils, en fonction des profils des épargnants.
Et ça, vous l'avez développé vous-même ou vous utilisez un prestataire externe ?
Non, ça, on a développé nous-mêmes, en fait, ce robot advisor pour, qui est vraiment spécifique à l'épargne salariale et qui est spécifique à chaque dispositif d'entreprise, qui va à la fois s'intéresser comme un robot advisor, on va dire, traditionnel hors épargne salariale, à l'appétit pour le risque de la personne, à ses horizons d'investissement, enfin à tout ce qu'on connaît qui peut permettre de choisir derrière une allocation. On va inclure une composante un peu thématique aussi. Il faut savoir que chez nous, on a dans notre architecture ouverte, sur laquelle on va revenir parce qu'il m'a posé une question dessus, mais on a une grosse partie de nos fonds qui sont des fonds ISR. On a des fonds qui sont exactement, des fonds socialement responsables. On a des fonds qui vont avoir des thématiques, des fonds nouvelles technologies par exemple, des fonds qui sont plus investis sur le secteur des PME. Et donc du coup, on interroge aussi via notre robot advisor les épargnants sur le sens qu'ils veulent donner à leur épargne. Est-ce qu'ils ont une thématique d'investissement qu'ils souhaitent privilégier et qu'on prend en compte dans les allocations derrière qu'on
propose. Donc c'est une goal-based approach.
En goal-based approach.
C'est une approche qui est plutôt liée au but final de ton investissement.
Exactement.
C'est plus du tout une approche par rapport à la notion de risque, mais plutôt, voilà, mon objectif, je sais pas, c'est d'ici 10 ans de pouvoir m'acheter une voiture, une maison, etc. C'est en fait le but final du placement qui est mis en avant plutôt que le rendement souhaité, qui est quelque chose d'assez abstrait finalement. Mm. C'est ça ?
Bah effectivement, on prend complètement ça en compte. On n'occulte pas, le risque et l'appétit pour le risque de la personne.
Je me doute.
On se conforme même là-dessus. Justement, je disais tout à l'heure, l'épargne salariale est hors directive MIFID. Nous, dans notre approche de conseil, justement, pour les
épargnants,
on la réintègre. Ouais. Donc voilà, on ne s'exonère pas du tout de ces mécanismes-là. Mais effectivement...
C'est dans un but plus pédagogique alors.
Exactement.
Ok, d'accord. Vas-y, je t'ai interrompu, pardon.
Non, mais j'ai fait une digression, mais tu me parlais de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc je vais finir là-dessus. Mais donc justement sur toute cette plateforme sur laquelle on apporte du conseil aux salariés, on apporte de la simplicité, on est aussi vraiment présent auprès des épargnants tout au long de leur investissement. Il faut savoir qu'en fait, en épargne salariale, généralement, et c'était un constat qu'on avait et qui était bien dommage, mais les épargnants, les salariés qui épargnent se connectent une fois par an quand ils ont une prime à placer et ensuite laisse vivre.
Moi, je l'ai
ça
vécu,
et s'y intéresse
plus. Ça, hein.
Et
ouais.
Ça, c'est vraiment le cas de tout le monde. Généralement, quand on touche sa prime, en plus, on ne sait pas forcément sur quoi la placer. On demande à son collègue de bureau, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est vraiment ce qui se passe. Nous, on voulait à la fois apporter un conseil personnalisé pour qu'on n'ait plus à demander à son collègue de bureau, mais que on ait une approche qui soit quand même un peu plus
professionnelle
et adaptée à la situation de chacun, et en même temps faire en sorte que les gens soient plus actifs, on va dire, sur leur épargne. Ces enveloppes-là étant des enveloppes d'épargne extrêmement intéressantes. Enfin, il faut savoir que, en tout cas, je parle pour la France, là, pour le coup, mais l'enveloppe PE, donc le plan d'épargne entreprise, aujourd'hui, d'un point de vue fiscalité, notamment des plus-values, donc intérêt d'épargner là, et d'épargner sur un support comme celui-ci, est extrêmement intéressante, et voire même plus intéressante potentiellement que de l'assurance vie. Donc il y a un vrai intérêt à regarder ce qu'on a, à regarder les supports d'investissement auxquels on peut avoir accès et de se dire je vais être actif sur, sur ces plans d'épargne que me propose mon entreprise. Et ça, pour pouvoir l'être, et je vais en venir à la dernière brique, on va dire, en termes de proposition de valeur, mais ça tient aussi au fait de pouvoir donner accès derrière à des supports d'investissement qui sont intéressants. Ouais. Là où, comme je le disais tout à l'heure, bien souvent, et c'était nous notre constat, on voyait sur le marché des gammes de fonds pas sexy, j'ai employé le mot sexy tout à l'heure qui t'a fait sourire, mais on voyait des gammes de fonds, généralement des
pas
fonds
optimales,
des fonds maison, ouais, des fonds assez chargés, ouais, des gammes où il y avait 4 ou 5 fonds, et donc du coup faire une allocation là-dedans, c'est assez compliqué, et donc nous on a vraiment eu à cœur de pouvoir donner accès à nos épargnants à un univers de fonds beaucoup plus riche, beaucoup plus sophistiqué, qui nous permet de créer derrière des allocations et des allocations qui sont dynamiques, mais de pouvoir vraiment gérer ces allocations-là avec nos équipes d'investissement en interne, et qui permet aussi à des épargnants qui sont peut-être en partie ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont un peu plus avertis, d'avoir accès à des supports en épargne salariale qui sont des supports intéressants, qui sont les mêmes supports que ceux qu'ils pourraient retrouver sur un contrat d'assurance vie qu'ils ont par ailleurs à titre particulier, et qui sont à la fois trop chargés en frais, performants qui permettent de diversifier leur allocation.
Et alors donc dans les maisons que vous avez sélectionnées, dans les gérants, qu'est-ce que tu peux citer ?
Je peux à peu près tous les citer, mais on travaille avec pas mal de gens. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de maisons de gestion. Donc, je m'excuse par avance si je ne les cite pas toutes, parce que ça risque d'être un peu long. Mais on travaille avec Fidelity International, qui est quand même un gros asset manager international. On travaille avec une maison française comme la Financière de l'Échiquier, qui voilà, sur sa gestion action, est quand même... dont la réputation n'est plus à faire, en tout cas en France. On travaille avec des sociétés qui sont un peu plus spécialisées, typiquement sur la gestion obligataire. On va travailler avec Schellcher Prince Gestion. On est allé chercher des fonds un peu plus thématiques dans une maison comme la Financière Arbevel, qui est une plus petite société de gestion.
Ils sont basés en France.
Ils sont basés à Paris. Okay. Et chez eux, justement, on a des fonds qui sont des fonds technologiques ou des fonds PME.
Plus des fonds de niche.
Oui. On travaille avec des gros comme Edmond Rothschild Asset Management, avec Lazard Gestion. Des belles maisons.
Parfait, merci. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps si on ne veut pas être trop trop long aujourd'hui. Écoute, c'est très clair pour moi. Merci beaucoup d'avoir bien développé toute cette chaîne de valeur. Si on en revient à EPSOR, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un snapshot de la société aujourd'hui et d'un point de vue RH, les grands départements que vous avez créés, et puis peut-être nous donner un peu la stratégie que vous avez développée, que ce soit en termes de positionnement ou peut-être de développement à l'international.
Oui, donc EPSOR, comme je te le disais, on a lancé avec Julien la société fin 2017. Au départ, on était deux. On a un troisième associé qui était notre directeur technique qui nous a rejoint à ce moment-là pour vraiment créer les premières briques de notre solution et lancer notre produit. Donc, ça nous a permis de lancer une première version du produit à l'été 2018, qui marque vraiment le début de notre commercialisation. Et à ce moment-là, en fait, on a fait appel à des investisseurs pour développer davantage la société. Et Partech a rejoint notre capital aux côtés de quelques business angels à l'époque. Donc, on a levé 1,3 million en novembre 2018 pour accélérer la commercialisation. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à recruter un peu plus, de façon un peu plus importante.
Vous étiez encore que trois à l'époque ?
Non. Sur le début de l'année 2018, quand même, on était un petit peu plus nombreux. On avait des freelances avec nous, on avait des stagiaires. À partir de septembre 2018, on commence à recruter en CDI de façon un peu plus importante. Et donc, on finit l'année 2018 à une vingtaine de collaborateurs. Et le début de l'année 2019 marque de beaux succès sur le plan commercial. On se pilote pas mal en encours.
Tu peux citer des noms ou pas ?
Des noms de clients qui nous ont rejoints à ce moment-là ? Oui, je peux en citer. Alors, Partech, qui est notre investisseur, et nous a rejoint, mais c'est un peu facile de le citer. À ce moment-là, on s'est pas mal concentré sur des cabinets de conseil. Et donc, on a des cabinets de conseil comme Kearney, qui nous ont rejoints, comme Roland Berger, qui nous ont rejoints aussi. Donc, on a eu pas mal de succès sur cette verticale, on va dire, des cabinets de conseil sur le premier semestre 2019. Et fort de ces succès commerciaux importants, fort aussi d'un contexte réglementaire qui était en train d'évoluer avec la loi Pacte en France,
l'alignement total des planètes,
qui est venu un peu rebattre les cartes, on va dire, sur ce marché et également sur le marché de l'épargne retraite, parce que un des gros acquis, on va dire, de la loi Pacte qui nous a permis de passer une étape supplémentaire en matière de développement produit, c'est les évolutions qu'il y a pu y avoir sur la retraite en France. Et donc, fort de ce contexte réglementaire et de ces succès commerciaux, on a à nouveau levé des fonds à l'été 2019. Et donc, cette fois-ci, Partech, notre investisseur historique, a remis au pot et est revenu avec nous. Et Blackfin a rejoint notre tour de table à ce moment-là. Et donc, on a levé à l'été 2019 6 millions d'euros, justement pour accélérer encore plus notre développement commercial, on va dire, et aller chercher davantage de grands comptes, vraiment se spécialiser sur les entreprises de taille plus importante, et également développer un nouveau pan de produit sur la partie retraite. Et développer le nouveau PER dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment une nouvelle brique dans notre proposition de valeur et qui nous permet d'accompagner des entreprises qui font des appels d'offres parfois sur épargne salariale plus épargne retraite et qui souhaitent avoir un seul prestataire pour les deux. Donc ça nous permet vraiment d'accompagner une entreprise dans des schémas comme cela. Et donc en fait on a fini l'année 2019 et le début de l'année 2020 à une cinquantaine de collaborateurs. Okay. Et donc aujourd'hui on est toujours une cinquantaine de collaborateurs à ce stade.
Ok, parfait, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, moi je demande toujours à mes invités un petit conseil de livre lié à l'innovation, à la finance, whatever, ou un podcast ou un film. On m'a recommandé plein de choses très différentes. Est-ce que tu as un conseil à nous donner aujourd'hui ? Quelque chose, un livre qui t'a bouleversé dans l'innovation ?
Newsletter dans l'innovation, je suis assez assidu, je reçois en tout cas et je lis une newsletter qui s'appelle Tech Trash, que je trouve génial.
tous les mercredis Tech Trash,
exactement.
Moi je vous le conseille aussi, je mettrai le lien dans le résumé de l'épisode, ça c'est un bon, on ne me l'avait pas encore sorti. Voilà. Merci Benjamin. Du coup, le plus simple pour te joindre, c'est par mail, par Twitter ou par LinkedIn.
Par LinkedIn, sans aucun souci.
Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Voilà, c'était très très intéressant de faire un thème qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'à présent. Donc, bon vent et puis bonne chance pour la suite.
Merci
à bientôt.
À toi.
Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine !